Bruno Tertrais nous a rejoint. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. On se demandait si ce coup de fil serait un tournant ce soir. Est-ce qu'une issue à ce conflit se dessine ou on en est encore très loin?
Mais écoutez, il n'y a absolument aucune issue qui se dessine. C'est un coup de fil, ce n'est pas un coup de théâtre. C'est un coup de fil qui, au contraire, a bien montré que Donald Trump était prêt à accepter, au moins sur le papier, à peu près tout ce que Vladimir Poutine voulait lui imposer. Qu'est-ce qui s'est passé? Revenons aux faits. Il y a un accord entre l'Ukraine et les États-Unis pour un cessez-le-feu total et sans condition, quasiment. Aujourd'hui, on a l'annonce d'un accord russo-américain sur un cessez-le-feu partiel, j'appelle ça un quart de cessez-le-feu, et avec des conditions russes extrêmement importantes. Donald Trump, apparemment, n'a pas trouvé grand-chose à redire à cette idée. Donc, comment réconcilier la position russo-américaine et la position ukraino-américaine? Aujourd'hui, je ne vois pas comment c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de cessez-le-feu, mais aujourd'hui, les positions sont irréconciliables.
Il y a beaucoup de détails qui nous manquent sur cet échange téléphonique. Et il y aura ce soir cette interview de Donald Trump sur Fox News. Donc peut-être qu'on en apprendra davantage et qu'on saura précisément ce qui s'est dealé. Mais pour commencer, première étape, donc en tout cas c'est ce que dit Vladimir Poutine, première étape donc avec cette trêve partielle sur les infrastructures énergétiques. Pourquoi commencer cette trêve par là et qu'est-ce que la Russie a y gagné là-dedans? C'est quoi? C'est un geste de bonne foi qui est fait part du président russe et l'entourloupe?
Alors franchement, l'idée d'un geste de bonne foi de la part de Vladimir Poutine qui vit sa meilleure vie et qui estime qu'il a l'interlocuteur idéal à la Maison-Blanche, je n'y crois pas beaucoup et c'est un euphémisme. Non, ce qui est vrai, c'est que ça arrange deux parties, mais surtout une. Ça arrange l'armée russe parce que ça veut dire cessation, dans les faits, des frappes de drones ukrainiennes à longue portée sur les infrastructures pétrolières, sur les dépôts, sur tout ce qui sert à l'énergie, on va dire, de l'armée russe. Évidemment, c'est aussi une bonne nouvelle pour la population ukrainienne puisque ça veut dire pas de frappe sur les centrales électriques. Alors, il se trouve que l'hiver est encore là, il est plus très long, mais j'imagine quand même que c'est quelque chose de positif. Mais encore une fois, comme d'habitude, c'est la Russie qui a plus à y gagner que l'Ukraine.
Le président américain avait évoqué dimanche soir des partages de certains avoirs, dont des terres et des usines de production d'énergie. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous y voyez un lien avec l'arrêt des frappes?
Le lien, il est suivant. Aujourd'hui, Donald Trump et Vladimir Poutine ont choisi d'engager une gigantesque partie de risque. Vous savez, c'est un jeu de société où on se partage le monde. Ou alors plutôt, c'est un nouveau congrès de Berlin. Vous savez, à la fin du 19e, les grandes puissances coloniales se partagent l'Afrique. Là, ils ont décidé de se dépouiller littéralement l'Ukraine. C'est ça qui est en jeu. Évidemment, les Ukrainiens n'ont pas eu leur mot à dire. Alors, on pense que la Russie voudrait, par exemple, contrôler la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui est au nord des oblasts qui sont soi-disant annexés par la Russie. Mais franchement, on est à la fois dans quelque chose qui n'est pas acceptable pour les Ukrainiens dans la situation où ils sont aujourd'hui, et aussi dans quelque chose qui ressemble à un partage des dépouilles d'une Ukraine qui n'existerait plus, qui ne serait plus qu'un objet, qui n'est plus du tout un sujet. C'est un objet pour les Russes et les Américains. Quand on se dit, c'est quelque part les pires cauchemars des Européens et sans doute des Ukrainiens qui sont en train de se matérialiser.
Oui, alors précisément sur les concessions territoriales, ce sera un des sujets. On verra si Donald Trump en dira plus ce soir dans cette fameuse interview. Est-ce qu'il a accepté de dealer en échange la reconnaissance de la Crimée?
Alors, ça fait partie
dans les enjeux, des questions.
On dit pour l'instant, ce sont des rumeurs, mais c'est assez cohérent avec ce qu'on connaît de l'approche de Vladimir Poutine, que parmi les options envisagées par la Maison-Blanche, il y aurait la reconnaissance formelle par les États-Unis, et ce sont des choses qui comptent dans la vie internationale, du fait que la Crimée et peut-être les autres oblasts soi-disant annexés seraient désormais russes. C'est important parce que, si vous voulez, c'est l'effet miroir du fait que les États-Unis et l'Europe, en tout cas une partie de l'Europe, n'ont jamais accepté l'annexion par l'Union soviétique des pays baltes au début du XXe siècle. Autrement dit, l'Amérique de Trump est tout simplement en train de piétiner tous les principes qui ont fait ce qu'on appelle l'Occident libéral, avec beaucoup de guillemets, depuis littéralement un siècle. C'est proprement stupéfiant.
Elsa?
Oui, il y a véritablement... D'aucuns parlent même de pacte pacte germano-soviétique, c'est-à-dire d'une alliance un peu contre nature entre les États-Unis et la Russie pour se partager l'Ukraine. Alors, bien sûr, il faut attendre que soient dévoilés ces détails, ouais. mais quand aux États-Unis et en Russie, on entend parler de manière récurrente, sans doute de concéder la Crimée à la Russie du point de vue américain, et peut-être même de discuter d'Odessa, le plus grand port céréalier, mais pas seulement, dont dispose l'Ukraine et qui serait très important pour la Russie également, on est en droit de se poser des questions. Parce qu'à chaque fois, il y a des sources qui se revendiquent de l'administration présidentielle au Kremlin, de l'administration présidentielle à Washington. Donc, bien sûr, nous sommes contraints d'attendre, mais il y a des ententes entre les deux présidents qui vont bien au-delà des points qui ont été soulevés aujourd'hui, des ententes idéologiques sur comment on gère sa puissance, comment on gère le monde. Et ben, on est revenu à une période d'impérialisme. Les puissants ont des droits qui n'ont rien à voir avec la loi. Ces droits, c'est d'exercer leur puissance alentour. Et puis, ils ont compris
des points communs idéologiques, c'est ce que vous dites. Le Kremlin parle justement d'une discussion franche et détaillée. Quand on dit détaillée, vous l'interprétez comment ? Ça veut dire que ces discussions-là, autour des concessions territoriales, autour aussi de la question des garanties de sécurité, autour de l'avenir de l'Ukraine, l'avenir politique, et j'entends notamment Volodymyr Zelensky, vous n'imaginez pas une seule seconde que tous ces points-là n'ont pas été abordés aujourd'hui lors de cet entretien téléphonique ? Inévitablement, ils ont été abordés.
Je pense qu'en 2h30, même si on compte le temps de l'interprétation, même si on compte le fait que Vladimir Poutine est particulièrement disert et s'est délayé les choses, on a parlé de beaucoup de choses, et peut-être d'autres choses que ce qui est pour l'instant annoncé. La question qui maintenant se pose, c'est très simple. Est-ce que l'Ukraine peut accepter ces conditions ? Non. Est-ce qu'elle va tenter de négocier une partie de ces conditions ? Peut-être. Est-ce que, et surtout la question clé, est-ce que Donald Trump va considérer que désormais, de son point de vue, l'obstacle, c'est Poutine ou l'obstacle, c'est Zelensky ? Et avec lui, on ne sait jamais de quel côté va tomber la pièce.
Il concède tout jusqu'à présent, selon vous ?
Mais parce qu'il est obsédé.
Par proximité idéologique, par fascination pour Vladimir Poutine, par business.
Tout cela à la fois. Tout cela à la fois, littéralement. Et aussi parce qu'il considère qu'il y a un intérêt suprême pour lui. Quand je dis pour lui, c'est pas pour les États-Unis, pour lui-même. C'est-à-dire, il faut arriver à une forme de paix par tous les moyens. Il faut que je puisse dire à moi-même, au peuple américain, au monde, c'est moi qui ai apporté la paix. Ça justifie, de son point de vue, énormément de choses.
Ulysse.
On a noté dans les déclarations qui ont fait suite à l'entretien téléphonique qu'on parlait de l'Iran et du nucléaire. Est-ce qu'il y a, dans la grande négociation autour de l'Ukraine, une possibilité que les choses avancent sur justement la question de la fabrication par l'Iran de la bombe atomique ?
J'imagine très bien Poutine dire à Trump, tu sais, je peux t'aider sur l'Iran. Toi qui veux régler le problème, je peux t'aider. Alors, les faits, pour l'instant, c'est que la Russie, comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine sont engagés à tout faire pour que l'Iran n'ait jamais la bombe atomique. Mais j'imagine très bien, encore une fois, Poutine dire « je vais être constructif sur cette question, tu sais que j'ai d'excellentes bonnes relations » et Trump dire « excellente idée, tu sais qu'il faut qu'on fasse un grand deal avec l'Iran ». Maintenant, est-ce que la Russie pourrait, par exemple, aider l'Iran à fabriquer la bombe ? Non, je ne le crois pas, parce que Vladimir Poutine a très peu de tabous, mais jusqu'à présent, depuis 20 ans, la Russie n'a jamais fait quoi que ce soit qui puisse matériellement aider l'Iran à faire la bombe. Attention, il les aide pour un tas de choses, les missiles notamment. Mais il y a quelques tabous qui restent, et notamment celui-là.
La question, c'est est-ce que, dans la mesure où il y a un deadline, un compte à rebours qui arrive très vite sur la possibilité ou pas de reprendre les négociations avec l'Iran sur la bombe atomique, est-ce que Trump et Poutine peuvent forcer un accord avec l'Iran pour mettre fin à la fabrication de la bombe ?
Je ne crois pas, mais Poutine fera tout pour faire croire à Trump, et ça marchera sans doute, il peut y contribuer.
Revenons juste sur les conditions qui ont été posées par Vladimir Poutine, l'arrêt de l'aide militaire occidentale et notamment aussi du renseignement. Est-ce qu'on n'a pas d'autre choix ? Je vais me faire l'avocate de Donald Trump. Est-ce qu'on n'a pas d'autre choix ? Est-ce que les États-Unis n'ont pas d'autre choix que d'accepter, de faire confiance à Vladimir Poutine pour que les négociations puissent avancer ?
Non, mais il y a un moment où, vous savez...
Où c'est le pire des pièges.
Ronald Reagan avait une très belle phrase qui répétait sans cesse à Gorbatchev, au point que Gorbatchev se finissait par l'agacer. C'est « on fait confiance, mais on vérifie ». Le problème, c'est qu'avec Trump, contrairement à ce qui se passait avec Reagan, on fait confiance sans vérifier. Donc, on a toujours des choix. Trump, il a le choix. Mais la question, c'est dans l'esprit de Poutine, Trump n'a pas le choix. C'est ça qui compte. C'est ce qui se passe dans la tête de Poutine. Or, tout nous indique, aujourd'hui, enfin, tous les signaux publics nous indiquent que finalement, Poutine estime qu'il a vraiment un président qu'il tient dans sa main, pas au sens forcément par des compromates, etc. Mais en tout cas, qu'il en qui il peut avoir suffisamment, non pas confiance, mais en qui il peut se fier pour promouvoir ses propres intérêts. Et franchement, Poutine, il vit sa meilleure vie en ce moment.
Mais est-ce que, je me permets de revenir sur cette question, est-ce que c'est une condition, pardonnez-moi si elle est peut-être un peu naïve, connaissant Vladimir Poutine, mais est-ce que c'est une condition inacceptable pour les Occidentaux de suspendre l'aide militaire, ou est-ce que il n'y a pas un moment, il faut se dire, c'est un risque à prendre pour
alors,
pouvoir
sur cette condition précise, je ne pense pas. Alors effectivement, sur cette condition précise, je ne pense pas que ça soit en dehors du champ de l'acceptable. Mais tout dépend de ce que cela veut dire en face. Si on suspend l'aide militaire occidentale, qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui arrive de Russie pour les forces russes en Ukraine? Enfin, la négociation logique, ça serait de dire très bien, mais dans ce cas-là, il n'y a plus rien qui parvient depuis la Russie en Ukraine. Ça serait la condition logique. Enfin, moi, si j'étais négociateur, c'est ça que j'essaierais de négocier. Donc, on n'est pas là en dehors du champ de l'acceptable. Ce qui est en dehors du champ de l'acceptable, par exemple, pour les Européens, c'est de dire reconnaître, mais parce que ça l'est aussi pour les Ukrainiens. Il faut quand même pas oublier que c'est un sujet avant d'être un objet, l'Ukraine. C'est de dire, ça y est, nous acceptons, nous reconnaissons officiellement, nous saignons là, que la Crimée est définitivement russe, légalement russe, et que 4 oblasts soi-disant annexés sont aussi russes. Vous voyez, votre question pose le champ de ce qui peut être envisagé dans certaines conditions, et ce qui, à mon sens, n'est pas envisageable.
Et comme le disait Bruno Tertrais, cette question de « bon bah alors, vous arrêtez tout armement, tout soutien militaire et de renseignement à l'Ukraine, très bien, mais si pendant cette période d'arrêt, le combat continue sur terre et dans les airs, sans notre appui et sans guidage, alors, il se passe suffisamment de temps pour qu'il y ait des batailles et des victoires successives remportées par la Russie. Et donc, sans ces détails et sans ces conditions de l'autre côté, on ne peut absolument pas se prononcer.
Et c'est la crainte de Volodymyr Zelensky ce soir qui dit la peur, c'est effectivement, si on accepte ça, c'est que ça affaiblisse l'Ukraine. Ulysse.
Alors justement, est-ce qu'il peut y avoir un scénario où Zelensky sent que finalement il va être poussé à la capitulation? Est-ce qu'il peut dire non? Et s'il peut... Que peut faire l'Europe pour être à ses côtés, pour l'aider? Est-ce que l'Europe a une capacité, ou bien tout ce à quoi on assiste depuis des semaines, c'est-à-dire les réunions des chefs d'état-major, les réunions des dirigeants européens avec les Britanniques et les Canadiens et d'autres, tout cela, est-ce que ça peut servir en cas de rupture de la négociation?
Alors d'abord, il faut toujours préparer le meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est celui d'un accord de cessez-le-feu durable dans lequel les Européens pourraient jouer un rôle. C'est pas parce que la Russie dit non aujourd'hui qu'il faut pas continuer à s'y préparer. Est-ce que Zelensky peut être poussé à... Est-ce qu'il est pris à la gorge? Non, à mon sens, absolument pas. Il faut quand même rappeler qu'il est beaucoup plus populaire, encore plus populaire dans son pays qu'il ne l'était avant le fameux incident de la Maison-Blanche. Est-ce qu'il est pris à la gorge, poussé aujourd'hui à signer quelques compromis que ce soit? À mon sens, il ne l'est absolument pas. C'est important pour lui d'avoir les Européens derrière, ça compte, et les Européens ne seront pas plus Ukrainiens que les Ukrainiens si à un moment, Zelensky, pas maintenant, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, veut dire « je signe, c'est imparfait, mais je signe », les Européens ne vont pas lui dire « non, tu ne signes pas ». Vous voyez?
Mais que se passera-t-il précisément s'il y a un accord qui se fait sur le dos des Ukrainiens, entre les Américains et les Russes, que Volodymyr Zelensky refuse cet accord, veut continuer cette guerre? On fait quoi, nous, Européens?
Et on continuera à l'aider.
On continue à aider.
Je n'ai aucun doute sur le fait
les États-Unis.
Contre les États-Unis. Aujourd'hui, au stade où nous en sommes, des relations entre les États-Unis et l'Europe, de la trahison par Donald Trump, de tous les principes qui ont fondé ce qu'on appelle l'ordre transatlantique libéral, de la trahison également de tous les principes de la sécurité européenne, je pourrais faire la liste, y compris par le coup de fil de ce jour. Là, je crois qu'aujourd'hui, la très très grande majorité des Européens disent « écoutez, tant pis Washington, nous on continuera à aider les Ukrainiens jusqu'à ce qu'eux-mêmes ne veulent plus qu'on les aide ».
Il y a un autre argument qui entre dans la balance, c'est l'argument économique. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont mis d'accord pour améliorer leurs relations et ça passe, je cite le communiqué de la Maison-Blanche, par de gros avantages économiques. Est-ce qu'il faut comprendre que les États-Unis vont suspendre leurs sanctions à l'égard des Russes?
C'est certainement dans la balance, ça a certainement discuté entre Trump et Poutine. De gros avantages économiques, c'est tellement trumpien comme expression, c'est presque délicieux avec beaucoup de guillemets. Mais si on ne comprend pas que derrière cette histoire de remise des compteurs à zéro, des relations américano-soviétiques, c'est beaucoup plus que de la diplomatie. C'est énormément de business personnel et d'État et d'État à État. On ne voit pas la partie qui se joue. Ça a commencé à Riyad dès la première rencontre entre Russes et Américains. Donc, c'est une très grosse partie qui est en train de se jouer. Et là, pour le coup, ça serait un vrai sujet pour l'Europe si les Américains et les Russes s'entendaient pour reprendre le cours normal de leurs relations avec des investissements russes aux États-Unis et réciproquement. Encore une fois, on n'en est pas là, mais heureusement que l'Europe se réveille, car là, il est minimum 1,5.
Est-ce que vous avez le sentiment ce soir qu'on a fait un pas de géant dans la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie, alors Vladimir Poutine était encore infréquentable il y a quelques semaines, enfin quelques mois.
Il n'était pas infréquentable par Donald Trump, excusez-moi.
Non, mais... il y a quelques mois, à l'époque de Joe Biden.
Mais on a fait un pas important dans cette mascarade de normalisation qui se ferait, à mon sens, au désavantage à la fin des États-Unis et certainement à l'avantage de la Russie. On n'en est pas encore là. Et rappelons-nous toujours que Donald Trump est quand même capable du meilleur comme du meilleur rarement, du pire souvent, mais il peut aussi changer complètement d'avis. Si à un moment, il a le sentiment, à tort ou à raison, probablement plus à raison qu'à tort, que Poutine est en train de rouler dans la farine, ça peut se passer très mal pour Poutine. Heureusement, Poutine connaît bien son Trump, il sait le manipuler, et à mon avis, le plus fort des deux, c'est pas celui qui est à la Maison-Blanche.
Mais ce rapprochement, c'est quand même une première victoire pour Vladimir Poutine.
Incontestablement, il y a déjà une victoire politique pour Vladimir Poutine, au risque d'une espèce de dissonance cognitive pour tous ceux qui, en Russie, mais aussi en Europe, y compris en France, considéraient qu'on ne pouvait pas faire confiance à l'un ou à l'autre. Enfin, c'est quand même assez curieux de voir qu'aujourd'hui, depuis que Trump est arrivé, Vladimir Poutine a complètement réussi à changer son image. Et dans une grande partie du monde occidental, c'est déjà une grande victoire politique pour Poutine.
Absolument, c'est un capital qu'il voulait absolument récupérer. Il est en train de le récupérer. Et c'est un homme qui, en tout cas, aujourd'hui, dans ce 11e anniversaire de l'annexion de la Crimée, qui a été validée le 18 mars, il a reçu un appel du président des États-Unis qui l'a fait attendre une heure. Poutine fait attendre tous ses interlocuteurs. Le seul interlocuteur qui le fait attendre, c'est Xi Jinping. Donc, c'est à noter tout de même. Et pour Vladimir Poutine, c'est le signe d'un retour au sommet, c'est-à-dire au sommet de la cogestion des affaires du monde entre la Russie et les États-Unis. Et le Kremlin prend plus des précautions que ne prend pas Donald Trump. Le Kremlin rappelle qu'effectivement, les négociations, les conversations se passent bien, qu'elles sont prometteuses, mais qu'on ne peut pas savoir. Les États-Unis, dans le passé, ont à plusieurs reprises tourné le dos à la Russie de manière inattendue. Donc, le Kremlin sait qu'il y a quand même des risques liés à ces négociations. Je suis pas sûre que Donald Trump, à part nous dire peut-être qu'on y arrivera, peut-être que pas, n'est pas un peu plus à perdre que Vladimir Poutine en termes de réputation.
Oui, il y a quelque chose qui m'a interpellée, Ulysse, dans le communiqué du Kremlin, qui indique que Donald Trump a soutenu l'idée de Vladimir Poutine d'organiser des matchs de hockey aux États-Unis et en Russie, entre des joueurs russes et américains évoluant dans les ligues de chacun des deux pays. Ça paraît tellement dérisoire par rapport aux enjeux, par rapport à ce qui est en train de se passer, mais c'est pas si anodin que ça.
Et c'est une vieille ficelle de la diplomatie soviéto-américaine du temps de la guerre froide. Et on se souvient tous également avec la Chine des premières parties de ping-pong qui ont annoncé la reconnaissance par les États-Unis de la République populaire de Chine. Donc c'est un grand classique en réalité, c'est un vrai symbole. Et vous êtes étonné, mais en réalité c'est pour Poutine très important parce que c'est par le sport que va reprendre la normalisation entre les deux pays malgré finalement tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Le fait de, et n'oubliez pas une chose, Poutine, c'est un joueur de hockey. Il est judoka et joueur de hockey. Donc pour lui, le hockey sur glace, c'est très important. Vous vous souvenez des images de Poutine torse nu dans la taïga. On l'a vu en tant que judoka, on l'a vu en tant que hockeyeur. Et donc le fait qu'ils organisent des matchs, et les Américains sont très forts au hockey sur glace. Donc imaginez ce match Amérique-Russie sur la glace, ça sera peut-être une façon, peut-être de mettre en avant cette négociation aujourd'hui à laquelle on assiste.
Donc c'est pas si anecdotique que ça.
Non, c'est très important. Et si l'un des deux pays gagne sur la glace, ça sera un symbole et ils seront furieux d'un côté comme de l'autre.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Élise Gasset. C'est à la fois un symbole de normalisation entre guillemets future des relations entre les deux pays. Et un magnifique symbole de retour à ce que la guerre froide pouvait signifier en termes de, vous savez, on appelait ça la coexistence pacifique. à l'époque de la guerre froide. C'est exactement ça. Et c'est quelque part le pire cauchemar des Européens, notamment des Français, qui, dans ces années-là, dans les années 1960, début des années 70, constataient avec effroi que les Américains et les Soviétiques pouvaient s'entendre sur leur dos, sur les conditions de la sécurité de l'Europe. Donc finalement, on a cet étrange mélange qui symbolise tout ce qui se passe depuis une vingtaine d'années d'ailleurs. C'est à la fois le retour au 19e siècle et les sphères d'influence, l'impérialisme, la connivence et la concurrence des impérialistes, et quelque part le retour à ce que la guerre froide avait de moins belliciste, c'est-à-dire la coexistence pacifique. C'est tout ça en même temps qui est en train de se jouer aujourd'hui.
Merci beaucoup Bruno Tertrais d'avoir été notre invité ce soir, et on attend cette prise de parole, enfin cette interview de Donald Trump sur Fox News à partir de minuit. On sera en direct jusqu'à minuit et demi, et on sera ensemble, Ulysse et Elsa, pour commenter cette interview. Réaction d'Emmanuel Macron depuis l'Allemagne face à cette condition posée par Vladimir Poutine de lever l'aide militaire occidentale aux Ukrainiens.